On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans le petit passage que j'ai lu. Vous dites à un moment donné l'ombre sur le voile du noir. C'est relié au romantisme. L'ombre sur le voile du noir. C'est relié au romantisme.
Oui, oui, oui. Je pense que oui, parce que c'est moi parce que la nuit est déjà tombée. C'est-à-dire que l'ombre permet une sorte de flou que ceux qui affrontent le noir, eh bien, essayent justement d'éviter ce flou. Et je parle particulièrement de ça, mais aussi, pas pour rien non plus que j'essaye qu'à tout ce compris, je me réfère à la peinture, parce que je pense que dans des entreprises comme celle de Goya, par exemple, ou même de Cello, après Chirico, il y a un désir justement d'affronter le noir, d'essayer d'aller voir ce qui vient dedans et ce qui va en sortir. Tandis que la nuit, quand même, permet une sorte de flou esthétique. Mais bon, aussi, il faut dire que tout ça, c'est pas, j'ai rien inventé, c'est que toujours, si les sociétés, dont les sociétés traditionnelles ont proposé des formes rituelles pour affronter ces forces-là, il n'empêche aussi, et surtout dans la tradition occidentale, depuis toujours, il y a des individus isolés qui prennent le risque complètement fou d'aller seuls, complètement seuls, affronter au bord du gouffre, de voir et de voir les différences.
Vous pensez à qui?
Par exemple, les femmes. Ne serait-ce que ça, quand on parle pas de la lune. Voilà.
Et justement, on parlait de la lune, c'est que la lune est là, les premiers romantismes avant, là, ça a été quand même une constellation.
Alors, ça aussi, il y a eu aussi un phénomène intéressant, parce que justement, à partir de on peut voir avec Jénas, c'est que justement, ces années qui correspondent au début de la société industrielle, c'est-à-dire où se met en place cette positivité, dynamisme de la positivité, on peut remarquer que tout d'un coup, il y a un intérêt pour le mythe. Avec toutes les ambiguïtés possibles, mais il n'empêche que c'était comme si on cherchait dans le retour à la pensée mythique, d'essayer de trouver justement les formes qui permettent de penser ce que la raison ne permet pas de penser. C'est d'autant plus intéressant que dans les années 30, c'est-à-dire une deuxième étape de la société industrielle au moment où la technique commence à triompher, eh bien, à nouveau, pense de façon la plus insidieuse, aussi bien que ce soit les batailles, les risques, aller voir tous les gens du collège de sociologie, mais aussi du côté des surréalistes, indépendamment des ethnologues et sociologues qui apparaissent à ce moment-là, eh bien, il y a aussi un intérêt tout à fait étonnant pour la pensée mythique, qui est aussi un désir de s'opposer au cours que prennent les choses. C'est comme s'il y avait là aussi, ce qui est intéressant, une résurgence des préoccupations du romantisme allemand. Le malheur, c'est que, eh bien, la guerre va arriver, ce recours à la pensée mythique n'est plus possible. La question, c'est de voir ce qui se passe aujourd'hui, mais on voit bien que c'est quand même qu'il y avait des solutions de ce côté-là, parce que ce n'est pas non plus par hasard qu'on fabrique des icônes interchangeables actuellement. Donc, qui permettent de reconstituer de façon illusoire des sortes de communautés, donc, qui ne durent pas, mais c'est comme si on essayait aussi encore une nouvelle fois de mettre la main là-dessus.
Sauf qu'aujourd'hui, on est plutôt du côté de la religion.
C'est ça. Oui, complètement. Et bon, alors donc, avec toutes les formes de dévotion possibles, c'est-à-dire que tout devient, c'est cette catastrophe, que tout peut devenir objet de dévotion.
sur le poète là-dedans.
Alors allez, on s'étend de mouvement, puis comme disait Alderine, de déplacement et de traduction.
Je pense que le poète peut essayer d'abord de dire un nom, justement, et essayer par tous les moyens de ne pas céder à cette. De montrer à quel point il y a une sorte de pollution de la subjectivité. Parce que c'est quand même cette grande entreprise de domestication aujourd'hui qui empiète de plus en plus sur ce qui était jusqu'à présent quand même de l'ordre individuel, c'est-à-dire tout ce qui était sensible. Or, on assiste à cette marchandisation du monde sensible. Et là, je pense que justement, le poète, ceux qui peuvent être plutôt de ce côté-là, peuvent justement affirmer ce qu'il y a de plus singulier en chacun. Et de toute forme, et de donner une forme à ce qu'il y a de plus singulier en chacun. Parce que je pense, étant donné le tour qu'a fait les choses, étant donné cette marchandisation, rien ne semble arrêter. Et il me semble qu'il ne nous reste que de recourir à ce qu'il y a d'irréductible en chacun de nous. Et ce qu'il y a d'irréductible, en sachant que ce qui est d'irréductible en chacun de nous est particulièrement intéressé aujourd'hui, justement parce qu'on peut voir tout ce qui est fait comme effort pour réduire la sauvagerie. C'est-à-dire, là, par exemple, le succès des arts sauvages aussi, c'est ça, cette sorte de neutralisation des arts sauvages, mais aussi cette sorte de. On assiste aussi à une neutralisation de la sauvagerie animale, et ne parlons pas de la sauvagerie érotique.
Par rapport aux arts primitifs, je pense que vous pensez au musée,
oui,
à Paris, qui sont très banales, qu'est-ce qui fait dans ce cas-là ? Un musée, pas de musée ?
Non, c'est pas la question de voir un musée, mais essayer aussi, il me semblerait aussi que ce serait peut-être aussi le rôle des intellectuels d'essayer d'analyser la façon dont ces choses-là sont présentées. Et ça, c'est très, très important de voir comment tout ça est présenté au gré d'une esthétisation tout à ligne, qui fait aussi que on neutralise tout ça. C'est-à-dire, bon, ben oui, c'est des artistes comme nous, voilà, tout ça. Et à nouveau, tout est interchangeable. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important, que les uns et les autres, et je pense là que c'est à chacun d'intervenir, à la fois de réfléchir et de prendre des distances par rapport à cette neutralisation générale.
En fait, il manque vraiment maintenant une pensée de tout ça, quoi. Une pensée critique qui prenne du recul et qui analyse vraiment.
Oui, et qui tient compte justement des ravages qui se font dans le monde sensible.
Et qui s'occupe du monde sensible, parce que ce qui s'est passé aussi au XXe siècle, en fait, c'est dans les avis, on a des critiques notamment de Gabou de Blanchot, qui ont bien vu certaines choses, par exemple Blanchot chez Votrillamont et chez Sade, mais qui ne l'a, lui, passé que dans le champ littéraire, de même que Edgar a passé le Dorine, on l'a vu, c'est-à-dire dans le national, etc. Ça, c'est une critique très, très violente.
Oui, et puis d'un autre côté aussi, Heidegger fait une sorte d'occultation systématique de tout ce qui est de l'ordre primitif. Donc ça, c'est aussi très important. Il me semble que jusqu'à présent, personne n'avait retiré ça. Ça, c'est très très grave, justement, pour une pensée qui se veut une pensée populaire. Donc ça, c'est aussi très grave.
Il n'y a pas du monde sensible dans l'espace littéraire de Blanchot.
Non. Et justement, et là, on en revient à ça. C'est pour ça que la raison pour laquelle moi, je suis très fascinée par ça, c'est que ça montre constamment qu'il n'y a pas d'idée sans corps et qu'il n'y a pas une